Puisque la musique est une invitation au voyage, j'ai envie aujourd'hui de vous inviter à la rencontre de l'âme russe avec un florilège des musiques d'au-delà de l'Oural. Et cela va peut-être vous surprendre, mais pour moi, l'âme russe, elle s'exprime aussi dans la révolution, les révolutions, devrais-je dire.
J'ai exclu de cette liste subjective le chant de l'international, mais on va démarrer avec le chant des partisans, qui va mettre tout le monde d'accord, puisque les deux camps, les rouges et les blancs, l'ont adapté chacun à sa manière, et je vous laisse décrypter la version que j'ai choisie. L'air de cette musique du chant des partisans vient d'un chant traditionnel russe. Alors, ce chant a également été utilisé par les résistants français et c'est à Maurice Druon et Joseph Kessel que l'on en doit les paroles françaises donc, et c'est Germaine Sablon qui l'a popularisé. Mais bien avant ces périodes troubles et troublées, l'âme russe s'est exprimée et notamment sous l'inspiration de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Tchaïkovski est une des figures emblématiques du romantisme russe. C'est un compositeur éclectique, il intègre des airs folkloriques auxquels il ajoute des éléments d'influence beaucoup plus occidentale. Prolixe, il est notamment l'auteur de 11 opéras, parmi lesquels le célèbre Casse-Noisette, mais c'est un extrait de la symphonie numéro 6, dite la pathétique, que je vous propose d'écouter présentement. Elle a été créée, comprendre, jouée, donc, juste avant sa disparition en 1893, à l'âge de 53 ans. pour cet extrait de la pathétique de Tchaïkovski. L'orchestre philharmonique de Vienne était dirigé par Herbert von Karajan. Mais si Tchaïkovski est connu pour avoir inspiré beaucoup de compositeurs après lui, il a lui-même été influencé par un autre compositeur russe, peut-être moins connu du grand public. Mikhaïl Glinka était très ouvert sur les compositeurs occidentaux et très tôt a apparu chez lui, malgré tout, la volonté de créer une musique spécifiquement russe, fondée sur des chants populaires russes. Donc il a fait un mélange de tout ça et il est le fondateur de l'école musicale russe et on lui attribue une place très importante dans l'histoire de la musique en Russie. On lui doit notamment Une vie pour le tsar, un opéra dont je vous propose d'écouter l'ouverture.
Thank you.
Autre compositeur romantique incontournable de la Russie du milieu du 19e, Nikolaï Rimsky-Korsakov fut professeur de musique, d'harmonie et d'orchestration et membre du groupe des cinq. Pour dire deux mots sur ce groupe des cinq, il réunit Mili Balakirev, César Cui, Modeste Moussorski, donc Rimsky-Korsakov, et Alexandre Borodine. Ces cinq membres sont autodidactes et ils suivent l'idéal de Glinka, donc qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire, ils prônent une musique spécifiquement nationale, basée sur les traditions populaires russes, donc tout le folklore, les chants populaires, mais également le chant religieux de l'Église orthodoxe. Et ils cherchent, dans le même temps, à promouvoir la musique des romantiques modernes les plus novateurs et encore peu diffusée en Russie à l'époque, Berlioz, Liszt, Schumann et Chopin. Et donc, pour en revenir à Nikolaï Rimsky-Korsakov, il est issu d'une famille aristocratique. Il a entrepris, contraint par sa famille, une carrière dans la marine. Mais il étudie à l'insu de sa famille le piano et la composition. Et alors qu'il est encore officier, il commence en 1862 l'écriture de la première symphonie qui sera jouée en public pour la première fois en 1865. Il abandonne donc définitivement la marine et, guidé par Tchaïkovski, on le retrouve, il approfondit ses études musicales. Il compose alors ses plus grandes œuvres. Il composera en tout 11 opéras, parmi lesquels Scheherazade. On lui doit également un autre père, souvent chanté dans nos célébrations dominicales. Et là, je vous propose un extrait de la symphonie numéro 3.
Thank you.
Après cette symphonie numéro 3 que l'on doit à Rimsky-Korsakov, un autre compositeur russe, pas forcément très très connu, Alexandre Ilinsky, son œuvre majeure, et qui semble-t-il l'a fait connaître au moins au-delà de l'Oural, La Fontaine de Bakhchisaraï, sur des poèmes d'Alexandre Pouchkine. Et donc cette opéra en quatre actes est visiblement très connue. Mais il est également bien connu pour sa berceuse Lullaby, dont nous écoutons un extrait. Après cette berceuse d'Alexandre Ilinsky, passons à Vassili Kalinnikov, pas très connu non plus. Il a d'abord étudié dans un séminaire, dont il est devenu le chef de chœur à 14 ans. Et ensuite entré au conservatoire de Moscou, il est admis à l'école de la Société Philharmonique de Moscou, s'y initie au basson et à la composition. Et l'on retrouve encore Tchaïkovski qui le soutient et le recommande auprès de plusieurs orchestres. Mais en raison de sa mauvaise santé, Kalinnikov doit partir et s'installe à Yalta, où il compose la plus grande partie de ses œuvres. Il y meurt, hélas, de tuberculose, l'avant-veille de son 35e anniversaire. Cette élégie que j'ai choisi de vous faire entendre, l'élégie, c'était une sorte de poème dans l'Antiquité avant de devenir un genre poétique à partir de la Renaissance. Thank you. Sergueï Vassilievitch Rachmaninov, un pianiste, un chef d'orchestre autant que compositeur, a été lui aussi, semble-t-il, très influencé par Tchaïkovski. Nous écoutons des variations sur un thème de Paganini. Après Rachmaninov, Dimitri Kabalevski, fils d'intellectuel de condition modeste et malgré quelques désaccords avec Staline, fervent communiste, il est considéré comme une des figures emblématiques des compositeurs de l'ère soviétique, ayant suivi les orientations du régime en matière de création artistique. Il a écrit notamment un requiem, hommage à ceux qui ont combattu le fascisme, mais c'est le cello concerto que nous allons découvrir dans cet extrait. Thank you. parce que la musique, ça peut aussi être un acte politique. Et pour boucler avec le chant des partisans que l'on a entendu au tout début de cette séquence consacrée à la musique russe, on termine avec Mstislav Léopoldovitch Rostropovitch, dont l'image jouant aux toutes premières heures de la chute du mur de Berlin face à un pan de ce mur précisément a fait le tour du monde. Rostropovitch aurait pu être compositeur, il s'y est essayé, mais décidant que son talent n'était pas à la hauteur de ses espérances, il s'est consacré au violoncelle. Pour l'aspect politique, il s'est engagé contre le régime soviétique, ce qui lui a valu, sans rentrer dans les détails, d'être déchu de la nationalité russe en 1978, avant d'être réhabilité par Mikhail Gorbatchev en 1990. S'il a interprété Bach lors de cette soirée mémorable de la chute du mur, pour rester fidèle au thème de cette émission, nous allons l'entendre interprétant Tchaïkovski dans le second mouvement du Quatuor à cordes en ré majeur. Ce mouvement qui est basé sur une mélodie populaire. Et selon la légende, Tchaïkovski entendit un peintre en bâtiment la siffler et il l'a intégré dans son premier Quatuor à cordes. Et la mélodie devint dès lors très célèbre. Andante cantabile de Piotr Ilitch Tchaïkovski, interprété par le violoncelliste russe Mstislav Léopoldovitch Rostropovitch, achève cette émission consacrée aux compositeurs russes.